tous et à toutes à ce tout premier épisode du Wrestleverse Podcast. Et oui, un podcast qu'on va parler, vous l'aurez deviné, de lutte. Alors, on commence ça en force, on a tellement à parler. Là, j'enregistre ça en ce moment au mois de mars, donc on est en plein dans la route vers WrestleMania, si on veut. Alors, il y a du stock à jaser en masse. Mais là, c'est le premier épisode, évidemment, fait qu'on va parler un peu de ça va être quoi le Wrestleverse Podcast, à quoi vous pouvez vous attendre à chaque épisode. Ben, en gros, c'est simple, dans le fond, oui, on va parler de lutte, bien évidemment, mais le focus principal va être la WWE. Et pourquoi la WWE? Ben, c'est simple, c'est ce qui m'a attiré, si on veut, dans l'univers de la lutte depuis que je suis tout petit, dans le fond. J'ai commencé à écouter, l'instant, c'est la WWF, dans les fin 80, les années fin 80, début 90. Et après ça, j'ai évidemment, pendant l'adolescence, arrêté un petit peu d'écouter ça, mais là, je suis revenu à réécouter ça en force dans le Attitude Era, comme qu'on dit si bien. Donc, fin 99, début 2000. Et j'ai jamais vraiment arrêté d'écouter la lutte depuis ce temps-là. C'est sûr que oui, il y a eu des petits moments comme on and off, des périodes un peu plus où c'était difficile au niveau du contenu. Au niveau de la WWE, ça n'a pas toujours été intriguant, intéressant à suivre, si on veut, au fil des années. Mais là, j'ai comme un... Je sais pas, je suis pas pour vous autres, mais en ce moment, là, depuis 2 ans, là, particulièrement depuis la dernière année, là, on dirait que la compagnie est en feu, tout simplement. Il y a eu tellement de changements aussi, puis on va en reparler dans les prochaines minutes. C'est juste énorme. Puis, après, avec tout ce qui se passait, puis toutes les histoires qu'on a qui se passent, autant au niveau de la wrestling, de la lutte en tant que telle, mais aussi tout ce qui se passe avec les changements au niveau de la compagnie, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Alors, ça fait un certain temps que je pensais à faire le podcast, puis parler de ça, évidemment. Pour l'instant, pour cet épisode-ci, je vais être seul, mais éventuellement, on va avoir des invités sur le podcast, bien évidemment, pour parler de toutes sortes de choses, puis aussi, possiblement, un co-animateur qui pourrait se joindre à moi éventuellement. Donc, toutes ces belles choses-là s'en viennent sur le podcast, mais... Puis là, évidemment, il y a d'autres promotions. Tu sais, la AEW, il y a la TNA, il y a tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, on a un certain nombre de temps dans une journée, dans une semaine, dans une année. Donc, puis même la WWE en soi, ça demande quand même beaucoup d'heures. Là. Tu sais, il y a Monday Night Raw, il y a NXT, il y a Friday Night SmackDown. Il y a à chaque semaine, ça, là, plus un pay-per-view, à ce temps, on devrait appeler ça un PLE, à chaque mois. Donc, c'est beaucoup de temps quand même. Donc, avec ma vie quand même un petit peu occupée, je dois avouer, si on rajoute ça en plus, puis plus les autres choses que j'aime, évidemment, suivre, faire et tout ça, ben commence à manquer de temps un petit peu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on parlera jamais de AEW, puis de TNA, puis de ça, puis de d'autres promotions de lutte. C'est très possible qu'on en parle ici et là. S'il y a des grosses nouvelles, des gros événements, puis tout ça, c'est évident qu'on va essayer d'en parler ici et là. Mais le focus principal du podcast va toujours rester la WWE. Puis dans le fond, ce qu'on veut faire, évidemment, c'est, pour être réaliste, c'est de faire au minimum un épisode par mois. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est qu'on va le faire tout de suite après, dans les jours qui vont suivre, chaque PLE, donc chaque événement, chaque pay-per-view. Puis on va parler évidemment de ce qui est les résultats, de ce qui est arrivé à cet événement-là, ce PLE-là. Puis en passant, pour ceux qui ne savent pas, PLE, c'est Premium Live Event. Je ne sais aucune idée c'est quoi en français. Donc on va continuer à dire PLE ici et là ou pay-per-view, peu importe. Fait qu'on va revenir là-dessus. Les histoires en cours aussi, nos moments forts, moins forts, puis tout ça, comme quel lutteur qui est en hausse, qui est à la baisse. On va tout parler de ces choses-là, évidemment, puis rendre ça super intéressant. Puis oui, le podcast, c'est pour les fans de lutte, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est aussi pour les fans un peu plus casual, ou même ceux qui ne sont pas nécessairement fans, mais qui écoutent ça comme une couple de fois par année, tout simplement. Je pense à une couple de mes chums, entre autres, qui vont écouter ça 3-4 fois par année. En gros, en cause de moi, je dois l'avouer. Mais comme là, exemple, on s'apprête à écouter WrestleMania dans quelques semaines. Ben, ce genre de podcast-là, ce qu'on va faire aussi, c'est un peu mettre à jour sur les histoires en cours, puis à quoi s'attendre pour les prochaines semaines, pour les prochains événements aussi. Fait que quelqu'un qui ne suit pas nécessairement ça à chaque semaine peut écouter le podcast, puis ça peut, on espère en tout cas, que ça va permettre de mettre ces gens-là à jour pour écouter les gros événements qui s'en viennent, puis tout ça. Fait que c'est un autre aspect du podcast qu'on espère bien évidemment toucher. Puis il y a un autre détail, un autre aspect aussi qu'on va prendre le temps de faire, c'est mettre un peu les projecteurs, si on veut, sur la lutte indépendante. Puis, c'est pas un domaine que je m'y connais au bout en ce moment, mais c'est une des raisons pourquoi je veux faire ce podcast-là. C'est un, en apprendre davantage, mais deux aussi, donner cette plateforme-là à des lutteurs indépendants. On espère pouvoir avoir une entrevue, bien évidemment, parler de leurs histoires, parler de leurs défis, puis tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un autre podcast, le Nerdverse Podcast, et sur ce podcast-là, j'ai fait une entrevue avec un certain Gabriel Savage Vienno l'année passée, je pense que c'était en juillet 2023, et on parle sur ce podcast-là de tout son cheminement, puis dans... Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est rendu aujourd'hui à faire de la lutte professionnelle sur le circuit indépendant? Puis d'ailleurs, en parlant de Gabriel, on va l'avoir sur le podcast dès le prochain épisode. Il va être notre invité pour l'épisode 2 du podcast pour nous parler de la suite des choses, la suite de son parcours, c'est quoi ses ambitions, qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Fait qu'on va l'avoir sur l'entièreté du podcast parce qu'on va aussi parler lors d'épisode 2 dans quelques semaines à peine. De nos prévisions, nos prédictions, je devrais dire, pour WrestleMania 40. Alors, Gabriel Savage Vienno va se joindre à nous pour cet épisode-là. Alors, ça promet. Donc, en gros, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on devrait couvrir pour le Nerdverse. Excusez-moi, mon Dieu, je suis trop habitué. Je promets que je vais changer ça. Le WrestleVerse podcast, c'est ce qu'on espère couvrir, bien évidemment, comme sujet, si on veut. Puis, bien évidemment, ça va être un peu un forum ouvert. C'est toute nouvelle d'intérêt qui concerne la lutte, qui concerne peu importe, autour de la lutte en général. On va bien évidemment tenter de couvrir le plus possible là-dessus. Mais là, parlant de nouvelles, on va commencer avec notre première nouvelle. Il y en a une énorme qui est sortie là, ça doit faire déjà quelques semaines, mais Netflix et la WWE se sont entendus sur une méga deal, une méga entente, 5 milliards sur 10 ans, qui va commencer en janvier 2025. C'est de loin la plus grosse entente pour les droits de diffusion de télé pour la WWE, bien évidemment, mais aussi c'est la première fois qu'on s'associe à un service de streaming comme Netflix. Puis quand même, Netflix, on s'entend, c'est de loin le plus gros service de streaming dans le monde. Donc, c'est énorme, et pour Netflix, mais surtout pour la WWE. Parce que là, eux autres, là, on va aller chercher énormément de potentiels nouveaux fans avec ça. Là, parce que là, les gens, soudainement, vont pouvoir aller sur Netflix puis avoir accès à Monday Night Raw, puis tout ça, puis écouter ça, même s'ils ne suivent pas ça du tout. Fait que quelle belle façon pour la WWE d'aller chercher des possibles nouveaux fans. Moi, j'adore ce concept-là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que, dans le fond, l'entente, bien, il y a plusieurs aspects à l'entente qu'on ne va pas tout parler sur le podcast parce qu'il y en a beaucoup trop de détails que même moi, je ne suis pas au courant de tout. Mais dans le fond, les grandes lignes de tout ça, là, c'est qu'aux États-Unis, c'est Raw, Monday Night Raw, qui va être diffusé sur Netflix à partir de janvier 2025. Pour le reste des shows, ils ont déjà leur propre entente. Donc, si je ne me trompe pas, NXT, ça va être sur le de CW, qui est un autre poste aux États-Unis. Tandis que SmackDown va être sur USA Network, que dans le fond, Raw est dessus en ce moment. Puis évidemment, les pay-per-view, les PLE, puis tout ça, c'est sur Peacock, le service de streaming Peacock, qui dans le fond, le WWE Network, si on veut, c'est complètement intégré au service Peacock quelques années passées. Donc ça reste avec eux. Ils ont une entente, je pense, jusqu'en 2026 ou 2027. Je pense que c'est 2026. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. On verra s'il y a des changements. Donc aux États-Unis, là, pour suivre la WWE, vous allez devoir avoir accès à tous ces services-là pour rien manquer. Bien, une des bonnes choses d'être Canadien, de vivre au Canada, c'est que pour nous, ici, tout, mais je dis bien tout, va être diffusé sur Netflix, Raw, NXT, SmackDown, toutes les pay-per-view, PLE, tous les documentaires, tout ce qui vient avec le WWE Network en ce moment va être disponible sur Netflix à partir de janvier 2025. J'ai fait mes recherches, j'étais curieux de voir, parce qu'en ce moment, c'est Sportsnet qui ont l'entente pour le network en ce moment pour les PLE puis les droits de canadiens puis tout ça. Et l'entente se termine en fin 2024, donc à partir de 2025, Netflix au Canada va avoir tous ces droits-là. Fait que nous autres, là, on a juste à avoir accès à Netflix. Les prix, on peut s'attendre à une petite hausse de prix, entre autres à cause de ça, mais parce que Netflix monte leur prix de toute façon à chaque quelques années, donc je ne serais pas surpris qu'il y ait une hausse de prix d'ici ce temps-là ou pas longtemps après. Mais on va avoir une hausse de prix, mais c'est correct. Regarde, ça reste que ça va coûter beaucoup moins cher que moi, je suis déjà abonné à Netflix, exemple. Mais il faut que je m'abonne aussi à Sportsnet Now pour avoir accès au network puis tout ça. Là, je vais pouvoir enlever Sportsnet Now au complet puis juste focusser sur Netflix. J'adore ça. Pour vrai, c'est une méchante, méchante bonne nouvelle. C'est excellent pour tout fan de lutte, dans le fond. Puis même les nouveaux fans, ça va être super facile, ça va être accessible au bout. Tu vas aller sur Netflix, tout va être là, tout va être disponible. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont te savoir une section WWE, on verra. Mais il y a beaucoup de stock qui s'en va sur Netflix. Des anciens PLA, des anciens pay-per-view qu'on espère qu'on va avoir accès à travers ça. Fait que ça, c'est une autre bonne nouvelle aussi. Fait que bref, ça commence en janvier 2025. Mais là aussi, il ne faut pas oublier que le premier Monday Night Raw de janvier 2025, cette année, ça tombe que c'est un 1er janvier. Donc, ça va être le 2 ou 3 janvier, on verra. Là. Mais le premier Monday Night Raw sur Netflix, attendez-vous à quelque chose d'énorme. Là. On va vouloir y aller all-in comme si c'était un méga show. Là. Pourquoi? Parce que ils vont vouloir que les gens se joignent comme pour le premier show de Netflix, que tout le monde l'écoute. On va vouloir faire sûr que tous les yeux soient rivés sur Netflix. On commence sans force, puis on va vouloir créer des grosses cotes d'écoute. Fait que qu'est-ce que ça va donner? Ben là, on est beaucoup trop loin pour ça, mais attendez-vous à quasiment un mini PLE, là, un show qui va être quasiment comme un pay-per-view en soi. Là. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Ça va être quelque chose de vraiment spécial. Puis comme je disais tantôt, ben la beauté de ça, là, c'est que c'est une expansion énorme. Là. On va pouvoir aller chercher plus d'une quelques centaines de millions de gens à travers le monde, à travers Netflix, parce que c'est pas juste Canada et États-Unis. Là. Je pense que c'est 4 ou 5 pays pour commencer. Il y a d'autres pays qui vont se joindre à cette entente-là dans les prochains 1, 2 ou 3 ans, quand que leurs ententes respectives vont se terminer. Donc, Netflix va devenir la pièce maîtresse, si on veut, pour que les gens puissent écouter la WWE dans les années à venir. Puis ça, c'est... En tout cas, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Je ne sais pas ce que vous autres en pensez, mais moi, je pense que ça va être un changement, mais positif dans l'ensemble. Puis là, ben, comme je disais tantôt, on est sur la route vers WrestleMania. On commence l'année, là, on est rendu en début mars. On a déjà eu 2 PLE. On a eu le Royal Rumble en fin janvier, puis on a eu le Elimination Chamber en février, qui est en direct de Perth, en Australie. Donc, on va revenir un peu sur ces événements-là vite fait, comme qu'on aurait fait s'il y avait un épisode pour chacun du podcast, pour chacun de ces événements-là. On a commencé le podcast un peu plus tard que prévu, mais c'est pas grave, on va revenir vite fait sur chacun de ces événements-là avant vraiment de rentrer dans le gros sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est-à-dire la route vers WrestleMania, puis à quoi s'attendre de ça, mais particulièrement aussi notre focus aujourd'hui là, sur le show. Là, on va dire les vraies affaires. Là, comme WrestleMania cette année va être dominé par tout ce qui se passe autour de la Bloodline, l'arrivée, le retour de The Rock, qu'est-ce qui va se passer avec Roman Reigns, l'histoire de Cody Rhodes, ça va être quoi le rôle de Seth Rollins dans tout ça. Fait que toutes ces choses-là vont faire en sorte que WrestleMania 40, c'est quand même le 40e anniversaire de WrestleMania, ils veulent y aller all-in. Puis c'est aussi le premier WrestleMania sous les nouveaux propriétaires, TKO, qui ont acheté la WWE plus tôt, en 2023 dans le fond, un certain nombre de mois passés. Et comme on sait tous, ça va être aussi la première route vers WrestleMania qui a zéro implication de Vince McMahon. Puis, on n'ira pas en détail de qu'est-ce qui s'est passé, les allégations, puis tout ça. La seule chose que je peux me permettre, que je vais me permettre de dire là-dessus, je devrais dire plutôt, c'est qu'en se fiant aux accusations, aux allégations, C'est vraiment horrible, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Et au-delà de ça, il n'y a personne, je dis bien personne, qui devrait être au-dessus de la justice. Et c'est à la justice de faire son travail. Puis au bout de la ligne, on espère que la justice va prédominer dans cette situation-là. Mais bref, c'est affreux. Puis on n'a pas tous les détails encore, mais il n'y a pas de fumée sans feu, comme qu'on dit. Puis il y a vraiment beaucoup de fumée autour de tout ce qui se passe avec Vince McMahon puis tout ça. Il y a de plus en plus d'informations qui sortent. Si vous n'êtes pas au courant, ben, je vous invite à aller vous renseigner, voir qu'est-ce qu'il y en est. On va peut-être en reparler éventuellement sur le podcast, quand on va avoir plus de détails, plus d'infos, plus de développement dans cette histoire-là. Mais pour l'instant, je me limite à ça. Et si on revient à l'aspect, le show en tant que tel, vraiment, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui avec WrestleMania et tout ça, c'est vraiment le premier WrestleMania sans Vince McMahon. Puis pourquoi que je dis ça? C'est que c'est la première fois ever en 40 ans que Vince McMahon n'a aucun rôle à jouer dans le booking, si on veut, les histoires, puis tout ça. Puis on voit à quel point que c'est différent cette année, comment ça file différent, comment ça file énorme avec toute cette histoire-là qui entoure The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, même Seth Rollins. Puis là, on va reparler tantôt, mais il y a tellement de gens qui émergent, des lutteurs qui sont là, ça fait longtemps, mais soudainement, ils sont prédominants, ils semblent plus importants, leur histoire, on care plus pour tout ce qui se passe avec eux. Fait que ça, pour moi, c'est un gros changement, puis c'est un changement qui est la bienvenue. Clairement, ça va faire... Ça fait, on rajoute un peu... Il y a deux choses là-dedans. C'est je trouve qu'on rajeunit un peu... on rafraîchit, je devrais dire, plutôt le contenu, puis tout ça. Mais aussi, comme avec TKO, puis tout ça, on le voit au niveau de la production. Quand tu regardes un show de Monday Night Raw, de Friday Night SmackDown, un PLE, puis ça, au niveau de la production, ça semble juste plus gros, plus important. Ça semble plus comme un événement sportif. Comme c'est fou le changement. Puis c'est des petits détails que tu ne remarques pas nécessairement sur le coup, mais quand tu écoutes le show, puis à la fin, t'es comme, tabarouette, comme ça filait différent, mais je sais pas comment mettre mon doigt dessus, tu sais. Puis c'est tout des changements comme les angles de caméra, les sponsorships. Il y a plein de petits changements comme ça que t'es comme, OK, ça file gros. Puis dans les médias aussi, on parle de plus en plus de la WWE dans les médias. On commence à prendre ça de plus en plus au sérieux. Bref, c'est le fun de voir ça. J'aime voir ces changements-là. Moi, je n'ai jamais été aussi excité de parler de ça. Comme je disais tantôt, le Attitude Era, c'est ce qui m'a ramené dans l'univers de la lutte en fin 99, début 2000. Mais même, autant que le Attitude Era était incroyable, la période qu'on est dans en ce moment, pour moi, c'est du jamais vu. C'est dur à décrire. J'ai hâte de voir comment qu'on va appeler cette période-là avec le temps, là. Mais c'est juste, c'est pour moi, là, jusqu'à date, il y a vraiment, il n'y a rien de parfait, là, mais jusqu'à date, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, puis c'est le fun. Fait que bref, on commence cette année-là, cette route de WrestleMania-là, avec le Royal Rumble en fin janvier. Puis c'est une autre chose qu'on voit aussi, l'impact des changements. Il y a beaucoup moins de matchs sur les cartes des événements. On prend plus le temps de développer ces matchs-là, de nous montrer l'histoire avant les matchs, de nous présenter les lutteurs, d'avoir des entrées, pas nécessairement comme gigantesques, quoi que ce soit, mais d'ajouter un élément de production à ces entrées-là. Tout ça ensemble fait en sorte que ça prend plus de temps, veut pas, donc on a moins de temps pour les matchs en tant que tels. Donc, au lieu de faire des matchs plus courts, on coupe dans le total des matchs, puis chaque match semble important. On le voit que le Royal Rumble, il y avait juste 4 matchs. On a commencé avec le Royal Rumble féminin, qui était gagné par Bayley. D'ailleurs, elle a battu le record. Elle a battu le record parce qu'elle est rentrée numéro 3. Puis elle s'est rendue évidemment jusqu'à la fin pour gagner. Donc, elle a battu le record le plus de temps dans le Royal Rumble qui avait été fait l'année précédente, je ne me trompe pas, par Rhea Ripley. Donc, honnêtement, très, très content pour Bayley. Puis on va garder plus... pour notre prochain épisode, les prédictions de WrestleMania, mais le fait qu'elle va affronter Io Sky avec toute l'histoire qui entoure Damage Control, Honnêtement, j'adore ce qu'on fait avec ce groupe-là depuis le mois de novembre. Je trouvais qu'avant ça, ça s'en venait comme redondant, puis ça allait nulle part. Mais depuis Survivor Series, War Games, avec le retour de Kairi Sane, puis tout ça, j'adore ce qu'on a fait, puis que tranquillement, on semblait se retourner contre Bayley. Puis là, c'est Bayley contre tout le monde, si on veut. Bref, l'histoire qui va mener à ce match-là est super bonne, puis ça va être tout un match, là. Fait que Bayley contre Io Sky, confirmé grâce à la victoire de Bayley au Royal Rumble. Le match est confirmé, bien évidemment, pour WrestleMania. Le deuxième match, c'était pour le titre mondial de Roman Reigns. Donc, c'était Roman Reigns contre Randy Orton, contre AJ Styles, contre LA Knight dans un Fatal Four-Way. Pas un match qui va passer à l'histoire. C'est un bon match, un bon divertissement, mais qui n'a pas nécessairement été à la hauteur des attentes avec tous ces lutteurs-là dans ce match-là. On s'attendait à quelque chose de peut-être plus wow, plus. Peut-être plus long aussi, c'était pas un match qui a duré comme si longtemps que ça. En tout cas, ça semblait passer très vite. Roman Reigns, bien évidemment, qui a gardé sa ceinture. Aucun changement là. Tant qu'à moi, le match de la soirée, c'était le troisième match pour le US title. Logan Paul contre Kevin Owens. Excellent match. Et moi, honnêtement, je suis peut-être contre la majorité des gens dans ce cas ici, mais j'ai adoré la finale de ce match-là. De Kevin Owens qui réussit d'une façon à prendre les brass knuckles de Logan Paul, de le frapper, bang, drette sa mâchoire, tombe à terre knockout, vient pour le piner et le ref commence à faire le compte 1, 2 et juste avant le 3, voit les brass knuckles, ses jointures de Kevin Owens, arrête le match drette là en disqualification, c'est fini. Logan Paul garde sa ceinture. Pourquoi que je trouve que c'est bon? Un, on voit ça rarement. Un match qui finit en disqualification, c'est rarement le fun. Mais dans ce cas ici, je pense que c'était la chose à faire. On ne voulait pas que Kevin Owens perde son momentum. On ne voulait pas que Logan Paul perde sa ceinture tout de suite. Donc, dans ce cas ici, Kevin Owens paraît tout aussi fort, surtout qu'il a pris Logan Paul puis l'a passé à travers la table des annonceurs après le match. Donc, il sort de ce match-là. En ayant l'air tout aussi fort. Puis Logan Paul, ben, il joue son rôle parfaitement. C'est comme le petit weasel, là, tu sais, qui se faufile, puis qui assume, qui trouve des façons de gagner, même s'ils ne sont pas tout à fait légales ou whatever. Il trouve des façons de gagner. Alors, il revire ça de bord, puis il dit, Charles, je t'ai manipulé, KO, c'est ce que je voulais faire. T'as pris les brass knuckles comme je voulais. T'as fait exactement ce que je voulais. T'as mangé dans ma main, blablabla. Tu sais, comme de voir ça, c'est juste parfait pour son personnage. Puis bref, l'histoire continue, puis on va reparler pour Elimination Chamber. Et finalement, le Royal Rumble masculin gagné 2 années de suite par nul autre que Cody Rhodes. Et après sa victoire, que bien évidemment, il y avait le retour de CM Punk aussi. C'était quand même un Royal Rumble qui avait quand même beaucoup de star power. Comme je regardais qui était prêt dedans, puis tout ça, les attentes étaient hautes. Le match en tant que tel était bien, mais encore là, ça me laissait un peu sur mon appétit. Cody Rhodes qui gagne m'a pas surpris dans les circonstances. Surtout en sachant par après que CM Punk s'est blessé pendant le match à la fin par Drew McIntyre, puis on revient là-dessus un peu plus tard. Mais bref, Cody Rhodes gagne le Royal Rumble 2 années de suite, c'est très bien. C'est le quatrième à le faire, le premier depuis plus de 25 ans, depuis que Stone Cold l'a fait je ne me trompe pas, c'était 87 et 98. D'ailleurs, Stone Cold qui est le seul qui l'a fait 3 fois, parce qu'il a aussi gagné en 2001. Tant qu'à moi, le Royal Rumble 2001 reste le meilleur Royal Rumble de tous les temps. Je le réécoute ici et là. J'adore ce Royal Rumble-là, avec le clash entre Stone Cold et The Rock dans le Rumble qui a mené éventuellement au match entre les deux à WrestleMania 17, qui était incroyable. Bref, un bon match, mais sans plus. Puis Cody Rhodes qui pointe dans les estrades au haut du stade. Et qui pointe vers Roman Reigns et qui semble clairement choisir Roman Reigns pour une deuxième année de suite. Et là, ça va mener à quelque chose, bien entendu, qu'on va parler tantôt, qui va être un peu notre main event du podcast quand on va parler de tout ce qui se passe autour de ça. Bref, un premier PLE en 2024 qui était bien. Pour vrai, c'était c'est correct. Tu sais, comme j'aimais ça, mais ça me laissait un peu sur mon appétit. Je pense qu'aussi, ça fait 2 ans de suite qu'on se disait The Rock, il va être là. Puis cette année, encore plus, là, parce qu'il était apparu quelques semaines avant à Raw, puis on va en reparler tantôt, le 1er janvier, puis il avait carrément teasé un match avec Roman Reigns. Donc tout était là. Les éléments, ils étaient là pour qu'on le voie au Royal Rumble. Il n'est pas apparu. On sait pourquoi à cette heure, mais sur le moment, c'était un peu un letdown. Mais au-delà de ça, la qualité des matchs était bonne. Mais je sais pas, il manquait un petit quelque chose qui faisait que c'était un bon événement, mais c'était pas un très bon événement. On va dire ça comme ça. Mais quand même très important parce que les choses qui sont arrivées lors de cet événement-là, de ce PLE-là, vont avoir des impacts massifs, évidemment, sur ce qui s'en vient pour WrestleMania. Bref, là, après ça, quelques semaines plus tard, on s'en va vers Perth en Australie pour le Elimination Chamber. Puis, l'Elimination Chamber, c'est fascinant parce que on va parler de la carte, on va parler des résultats, puis après ça, on va parler de qu'est-ce que Elimination Chamber aurait pu être si on compte pas les blessures, puis tous les changements qui étaient arrivés, puis toute l'équipe. Fait que bref, Elimination Chamber qui était à 5h du matin ici même, heure de l'Est. Donc, évidemment, je ne l'ai pas écouté live. Je l'ai écouté un petit peu plus tard. Je l'ai écouté vers 9h, à peu près. Donc, encore une fois, 4 matchs. On a gardé ça, pas dire short and sweet, parce que c'était quand même un long événement, presque 3 heures. Mais 4 matchs qui ont été quand même... Moi, honnêtement, là, si je compare les deux premiers événements, j'ai préféré Elimination Chamber au Royal Rumble. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Le premier match était le Elimination Chamber féminin qui a été gagné par Becky Lynch. Un très, très bon match tant qu'à moi. J'ai adoré ce qu'on a fait avec Tiffany Stratton qui a été rappelée récemment d'NXT, qui est officiellement à SmackDown maintenant. Puis elle a laissé toute une impression après avoir participé à ce match-là. Les gens, ils étaient comme... Ils voulaient la voir là. On cheerait son nom, tout le kit. C'était de loin... La fan favorite, comme qu'on dit. Les gens l'adorent déjà. Puis pour vrai, le Tiffany Stratton, là, c'est le total package. Là. C'est la prochaine superstar, sans aucun doute, dans la division féminine de la WWE. On parle aussi de Jade Cargill, mais on doit voir Jade Cargill en action vraiment pour pouvoir se prononcer sur cet aspect-là. Mais tout le reste pour Jade Cargill, démontre tout autant un futur de superstar pour elle, mais on doit la voir dans le ring puis voir ce qu'elle est rendue de ce côté-là, ce qu'on devrait voir très bientôt. Là, avec WrestleMania qui s'en vient, je ne serais pas surpris qu'on la voit en action à WrestleMania. Bref, un excellent match. Becky Lynch qui gagne le match, aucune surprise là. On savait qu'on s'alignait vers Becky Lynch contre Rhea Ripley à WrestleMania. Donc ce match-là confirme Rhea Ripley contre Becky Lynch à WrestleMania 40 pour le Women's World Title. Parce que là, t'en as deux. Là, c'est... Fait que dans le fond, le titre de Raw, c'est le Women's World Title. Puis le titre de SmackDown, c'est le WWE Women's Title. Fait que c'est ça. Fait que bref, très bon match. Gagnant très prévisible. Puis honnêtement, je dirais que tous les gagnants, gagnantes dans les matchs de ce PLE-là, ils étaient très prévisibles. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi bien des gens ont trouvé cet événement-là correct, mais sans plus, à cause du côté prévisible. Mais des fois, dans la wrestling, dans la lutte, le monde de la lutte, l'aspect prévisible n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Fait que, bref, moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais en même temps, je peux comprendre le fait que quand tu sais déjà le résultat des matchs, que c'est facile à prévoir, ça enlève un petit peu l'élément de surprise, l'élément de punch, si on veut. Fait que... Bref, je comprends le pourquoi de tout ça. Le deuxième match pour les Tag Team Titles, que d'ailleurs, on va se dire les vraies affaires, j'ai tellement hâte qu'on sépare ces titres-là. Comme on a tout fait ça avec les autres titres, on a tout changé les ceintures dans la dernière année. Comme, qu'est-ce que vous faites encore avec les ceintures bleues et rouges? Comme, là, ils se promènent avec leurs deux ceintures chaque. C'est encombrant. Comme, puis ça prend un peu la division tag team en otage parce que on va se dire les vraies choses là. Raw et SmackDown sont rendus avec plein de tag team là. C'est fou là. Comme la division tag team n'a jamais été autant en santé là, depuis longtemps parce que Vince McMahon n'aimait tout simplement pas la lutte tag team. Il n'était pas un fan de ça. Fait qu'il n'a jamais mis de l'emphase là-dessus trop. Même si on a eu des très bons moments dans le passé, ça n'a jamais été une préoccupation, une priorité pour lui. Puis clairement, on s'aligne dans une direction différente sur la nouvelle ère de Triple H. Puis il est temps qu'on se sépare les titres. Là. Je sais pas. Là, les rumeurs disent que ben là, même que Nick Aldis, qui est le GM de SmackDown, a dit la semaine passée à SmackDown que lui puis Adam Pearce, qui est le GM de Raw, avait une annonce à faire bientôt pour en lien avec les titres tag team. Donc, est-ce qu'on va les séparer? Est-ce qu'il va y avoir des matchs à WrestleMania pour faire ça? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? J'ai juste hâte qu'on fasse l'annonce. J'ai hâte qu'on mette le focus sur les deux, et Raw et SmackDown, parce que ces tag teams-là méritent un championnat. Ça va ajouter du piquant à cette division-là qui est de plus en plus forte. Donc, chaque division, Raw et SmackDown, tant qu'à moi, ont besoin de leur titre, puis ça doit se faire au plus sacré. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que bref, je reviens sur le match Judgment Day contre leur nom m'échappe. Là, en tout cas, il y a un nouveau nom de tag team, mais Pete Dunne puis Tyler Bates. Puis j'ai adoré ce match-là. Excellent match de lutte. Mais encore là, un match qui était mis là vraiment pour donner un spectacle, si on veut. Pas vraiment de build-up, pas vraiment d'histoire qui a mené au match. Fait que ça, c'est un aspect qui manquait. Pour moi, un aspect qui est extrêmement important. Moi, j'adore l'aspect histoire, l'aspect build-up. Ça l'ajoute tellement à un match de lutte. Mais ça n'enlève rien à la qualité du match qu'ils ont eu, parce que c'est un excellent match que Judgment Day, sans surprise, ont gagné. Donc, ils sont toujours champions Undisputed Tag Team Champions, on va dire en anglais. Donc, champions incontestés. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'ils vont juste garder les belts de Raw? Est-ce qu'il va falloir qu'ils donnent les belts de SmackDown? On va clairement changer les ceintures. Ils ne vont plus être rouges et bleus. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. On devrait savoir très bientôt, et j'espère avant WrestleMania, parce que ça va ajouter encore plus à WrestleMania si on a des matchs pour décider des champions et de Raw et de SmackDown. Fait que, bref, j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et ensuite, on a eu le Elimination Chamber masculin. Encore une fois, très bon match. Je ne m'attendais pas à des flips et des moments spectaculaires en voyant qui était impliqué dans ce match-là. Il n'y avait pas de ricochet, il n'y avait pas de lutteur comme spectaculaire, si on veut, mais c'était tous des gros noms. On est allé pour des gros noms. Tu avais Drew McIntyre, Randy Orton, LA Knight, entre autres, là, Logan Paul, Kevin Owens, puis Bobby Lashley. Fait que, c'était quand même six gros noms qui méritaient d'être là. Puis ça donnait un très bon match, tant qu'à moi, beaucoup d'histoires, puis tout ça. J'ai vraiment aimé ce qu'on a fait avec tous les participants. LA Knight, je trouve qu'il a super bien paru dans les circonstances. Quand il était là, il dominait. La crowd, comme ceux qui pensent qu'LA Knight, sa popularité diminue, comme Elimination Chamber a prouvé le contraire. Il est encore over au bout. Ce gars-là, il est sa coche. Je vais être honnête, moi, j'aurais espéré qu'on s'enligne vers un match Logan Paul versus LA Knight à WrestleMania pour le US title, le titre des États-Unis. J'aurais vraiment préféré ça. Je pense que ça aurait été un plus gros match pour LA Knight. Ça aurait été un excellent match overall pour le US title. Puis ça aurait été vraiment un des plus gros, sinon le plus gros match ever pour un US title. Ça aurait été énorme. Puis quelle meilleure plateforme que WrestleMania pour faire ça. On semble se diriger dans une autre direction avec tout ce qui s'est passé à Elimination Chamber. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai aimé de ce match-là, c'est qu'on a fait le setup de plein d'histoires pour WrestleMania. AJ Styles qui a carrément pris l'avion pendant 28 heures juste pour aller s'assurer que LA Knight ne gagne pas le Elimination Chamber en donnant des coups de chaise et en s'assurant qu'ils perdent. Bravo AJ Styles, surtout lui qui était reconnu pour pas triper à prendre l'avion puis tout ça. Fait que le fait qu'il a fait tout ce voyage-là sans avoir de match juste pour faire ça, je t'applaudis. Mais là, où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire-là? Ça reste que LA Knight versus AJ Styles va être un très bon match à WrestleMania. C'est un match, tu sais, AJ Styles, c'est pas un pied de céleri, là, c'est pas un deux de pique non plus. C'est quand même il a gagné il a quand même été champion mondial quelques fois dans le WWE. Il a une grosse carrière en TNA. Fait que tu sais, le gars, il a eu des matchs incroyables contre John Cena, entre autres. Comme, le gars, il a une super belle carrière. Fait que Puis il sent, tu sais, on va se dire vraie chose, là, il approche la fin de carrière, là. Il l'a dit lui-même. Là. Fait que LA Knight d'avoir un match contre AJ Styles à WrestleMania, c'est quand même excellent. C'est juste que j'aurais préféré que ce soit pour un titre, comme le US title, puis contre Logan Paul, ça aurait été parfait. Le build-up semaine après semaine sur le micro, puis tout ça, les échanges entre LA Knight et Logan Paul, ça aurait été parfait. Mais il n'y a rien qui nous dit que ça ne va pas arriver dans le futur. Peut-être vers SummerSlam, on verra. Mais bref, ça reste qu'on a set up LA Knight versus AJ Styles. Bien hâte de voir ça. Aussi, ce qu'on a fait, on a set up Randy Orton contre Logan Paul parce que c'est Logan Paul qui a coûté le match à Randy Orton. Puis ça, ben, ça, là, je vous le dis, hein, c'est la meilleure façon de savoir si quelqu'un va interférer dans un Elimination Chamber. C'est pas compliqué. C'est de regarder si la porte est encore ouverte parce qu'à chaque fois qu'un participant, qu'un lutteur se fait éliminer, on ouvre la porte, les refs, les arbitres viennent l'aider à sortir. Puis là, ben Logan Paul prenait son temps, il avait mal aux genoux. D'ailleurs, il a sorti une vidéo, qui se filmait, il disait « Ah, je suis pas capable de bouger », puis tout ça, puis il faisait semblant, bien évidemment. Mais il voulait coûter le match à Randy Orton. Il a pris ses brass knuckles, il l'a frappé en pleine face, et là, ben ça a fait en sorte que Drew McIntyre a gagné le match. Et c'est lui qui s'en va à WrestleMania pour affronter Seth freaking Rollins. Puis on en parle dans pas long, l'impact de tout ça aussi dans la grosse histoire de la Bloodline et tout ça. Bref, Drew McIntyre, c'était le choix, tant qu'à moi, le choix logique. J'adore, je répète, j'adore ce qu'on a fait avec son personnage. J'ai toujours aimé Drew McIntyre, mais il n'a jamais été une raison pour moi d'écouter Raw ou SmackDown, peu importe. Quand il était là, OK, cool, mais ça n'a jamais été quelqu'un qui faisait peser la balance de « Ah, j'écoute-tu Raw ou pas? J'écoute-tu cette partie-là ou pas? » Whatever, tu sais. Il était pas, on appelle ça un « needle mover » en anglais, là. C'était pas le cas du tout pour Drew McIntyre. Et depuis son changement de personnage, depuis qu'il est rendu « heel » officiellement, puis comme, sérieux, le gars, il est dominant dans son rôle, il est tellement bon. Là, j'ai tellement hâte de voir ce qu'il va faire à chaque semaine. Là, j'écoute Raw, entre autres pour Drew McIntyre. Le gars, il mérite tout ce qui arrive en ce moment. Tu vois qu'il se donne à fond dans ce nouveau personnage-là. Puis là, ben, il s'en va contre Seth Rollins. Il est impliqué dans toute cette histoire-là d'une façon un peu indirecte, lui. Mais ça reste qu'il est impliqué quand même. Moi, honnêtement, je lui souhaite de gagner la ceinture à WrestleMania. Ça ferait un changement, ça ferait du bien. Et honnêtement, là, je n'ai que de bons mots pour tout ce qu'on fait avec ce personnage-là. Fait que bravo à tout le monde qui est impliqué là-dedans, mais surtout bravo à Drew en tant que tel, parce que le gars, il est juste sa coche. Fait que bref, j'ai vraiment aimé cette pay-per-view-là, cette PLE-là. J'ai trouvé que tous les matchs étaient intéressants, divertissants. J'ai trouvé que les matchs, overall, la qualité était meilleure qu'au Royal Rumble. Puis oui, bien évidemment, je n'ai manqué un. Le plus important, le Rhea Ripley contre Nia Jax, le main event de la soirée. Premièrement, je suis content qu'ils ont donné le main event à Rhea Ripley, qui vient d'Australie, entre autres. Donc, elle avait les fans de son côté. C'était le fun de voir ça. Sérieux, c'était incroyable de voir la réaction. Puis le match a été super bon. J'avais pas de grosses attentes pour le match en tant que tel, mais un super bon divertissement, vraiment un bon match, une bonne fin aussi. C'est clair que le build-up de ce match-là, c'était le gros moment où ce que Rhea Ripley fait son riptide, sa manœuvre finale à Nia Jax, puis clairement, avec les... Tu sais, Nia Jax est pas petite, est colosse, pas à peu près, donc... Le fait de faire son finisher, son riptide, une couple de fois dans le match, elle essaye, elle n'est pas capable. C'était clair qu'on buildait vers ce moment-là, ce qui était pour le faire. Elle l'a réussi à la fin, puis elle ne l'a pas manqué. C'était vraiment solide, un beau moment. Elle gagne 1, 2, 3, et Rhea Ripley confirme qu'elle s'en va à WrestleMania, affronter bien évidemment Becky Lynch. Bref, on finit ça en force. On envoie les gens chez eux heureux parce qu'ils étaient contents de voir Rhea Ripley gagner. Mais non seulement ça, mais même Nia Jax, elle a vraiment bien paru dans ce match-là. Là. Comme honnêtement, depuis qu'elle est revenue, là, avant ça, j'étais vraiment pas un fan, mais depuis qu'elle est revenue, là, elle s'est améliorée dans le ring. Encore un petit peu de travail à faire avec le micro, mais overall, elle s'améliore de ce côté-là aussi. Son personnage de heel dominante fonctionne très bien. Puis ça l'a donné tout un spectacle contre Rhea Ripley comme main event du Elimination Chamber. J'ai rien à dire de négatif sur ce match-là. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça a fini un bon pay-per-view, tout simplement. Puis mon match préféré, je te dirais, de cet événement-là, c'est tellement dur à dire. Honnêtement, je dois y aller avec l'Elimination Chamber. Je pense avec celui des femmes. J'ai adoré ce match-là. Tout ce qu'on a fait avec ce match-là, vraiment, j'ai adoré ça. Mais tous les matchs étaient très bons. Vraiment, là, c'était une réussite sur toute la ligne. Puis comme je disais tantôt, malgré les circonstances, puis quand on prend ça en considération, c'est encore plus un succès, une réussite. Parce que Elimination Chamber, quelques mois passés à peine, était supposé être complètement différent. Si on regarde les blessures puis tout le kit, CM Punk, quand il s'est blessé au Royal Rumble, lui, il était supposé être dans l'Elimination Chamber. Et non seulement ça, il était supposé gagner l'Elimination Chamber des hommes et aller se prendre contre Seth freaking Rollins à WrestleMania. C'était ça le match. C'était prévu depuis un bout déjà. Là, il se blesse, ça a un impact là-dessus. Donc, Drew McIntyre gagne au lieu de lui. Puis honnêtement, ce qu'on fait avec Drew, il n'y a pas meilleur plan B, là, t'sais. Mais ça reste qu'un impact. Fait que CM Punk aurait dû gagner ce match-là. Rhea Ripley contre Nia Jax, ça c'était prévu du début, ça n'a jamais changé. Mais tout le reste a changé. Comme un autre... quand on parlait de Vince McMahon tantôt, les allégations et tout ce qui s'est passé. Puis sans revenir en détail là-dessus, un autre impact de ça, c'est que Brock Lesnar semble être impliqué dans toute cette histoire-là, au point qu'on l'a retiré du Royal Rumble, on l'a retiré de Nation Chamber, puis on l'a retiré de WrestleMania. Donc, c'est pas compliqué. Son retour a été scrappé complètement. On semble même vouloir le retirer du jeu vidéo 2K24. Comme, sérieusement, on va en apprendre plus bientôt, je suis sûr. Mais encore là, beaucoup de fumée pour dire que c'est juste des rumeurs. Puis là, l'impact que ça a eu sur Elimination Chamber, c'est que dans le Royal Rumble, ce qui était supposé arriver, c'est que, dans le fond, vous avez vu Bron Breakker dans le Rumble. Ben, ce que Bron Breakker a fait dans le Rumble, c'est pas mal ce que Brock Lesnar aurait dû faire dans le Rumble. Fait que, si je ne me trompe pas, c'est Bron Breakker est éliminé par Dominic Mysterio. Ben, c'est exactement ce qui arrivait à Brock Lesnar. Dominic Mysterio aurait été celui qui élimine Brock Lesnar, ce qui aurait amené à un match 1 contre 1 Elimination Chamber. C'est un match-là, évidemment, pas eu lieu en cause des circonstances. Donc, ça, c'est un autre match qu'on aurait eu. Et une autre chose qui aurait arrivé aussi au Elimination Chamber, puis qui a un impact en cause de l'histoire qu'on va parler tantôt, c'est The Rock. Parce que The Rock était prévu pour être l'invité de Grayson Waller sur le Waller Effect. Et là, dans ce temps-là, The Rock était prévu pour être un babyface. Parce que le but, c'était qu'ils se prennent contre Roman Reigns à WrestleMania. Et là, on sait tous les changements qu'il y a eu depuis. On en reparle bientôt. Mais là, ça l'a affecté qui était prêt sur le Waller Effect aussi. Et on a eu finalement Seth Rollins puis Cody Rhodes. Puis Cody Rhodes était supposé avoir un match à Elimination Chamber contre Drew McIntyre. D'ailleurs, le setup a été fait au Raw après... un ou deux Raw après le Royal Rumble. On a fait le setup de ça. Finalement, le match n'a pas eu lieu. Donc, Cody Rhodes aurait dû affronter Drew McIntyre à Elimination Chamber. Fait que, bref, ça aurait été un événement complètement différent. Ben, regarde, les blessures arrivent, les imprévus arrivent. Donc, il y a un paquet de choses qui sont arrivées. C'était comme quasiment un curse contre cet événement-là en tant que tel, plus ou moins directement. Mais malgré tout, on s'est retroussé les manches chez la WWE, chez les lutteurs, les lutteuses et tout ça. Puis on a quand même donné tout un show pour les gens à Perth, en Australie. Fait que bref, je leur lève mon chapeau. On s'en est très bien sorti dans les circonstances. Mais là, j'en parle depuis tantôt. Je tourne autour du pot, là. The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins, puis toute la kit. Puis on est officiellement dans la route vers WrestleMania. Nos deux pay-per-view, Royal Rumble puis Elimination Chamber, sont du passé maintenant. Puis là, on arrive dans le build-up final vers WrestleMania. Puis, ce qui tient l'attention en ce moment pour cette route vers WrestleMania-là, c'est le retour de The Rock. Tout ça, ça a tout changé. Puis la réaction au retour de The Rock a carrément changé des plans. Fait que là, on revient en arrière un petit peu. 1er janvier 2024, The Rock revient à Raw Day One, qu'ils l'ont appelé, qui est un Raw spécial. The Rock revient, fait une promo avec Jinder Mahal. C'est du pareil au même. C'est drôle, c'est le fun, mais rien de spécial. Et à la toute fin, il commence à dire, il dit qu'il a faim, qu'il va aller manger quelque part. Il dit, je devrais-tu aller m'asseoir sur une banquette? Je devrais-tu m'asseoir au bar? Ou est-ce que je devrais m'asseoir « at the head of the table », comme que Roman Reigns aime si bien dire. Les gens ont capoté, ça faisait des backflips dans les estrades, tout le kit. Les gens capotaient, clairement, on a eu la réaction qu'on voulait. Les gens voulaient voir The Rock contre Roman Reigns. Quelques semaines plus tard, Cody Rhodes gagne le Royal Rumble et pointe vers Roman Reigns. Et The Rock, qui ne se présente pas au Royal Rumble, nous laisse sous-entendre que, ben, The Rock contre Roman Reigns ne sera pas à WrestleMania. Donc, plusieurs personnes, dont moi, on est clairement déçus de ça. Mais en même temps, on nous a construit cette histoire-là avec Cody Rhodes depuis un an, sa rédemption vers son rematch contre Roman Reigns. Donc, en prenant ça en considération, c'est super logique. Ben, un, c'est logique tout court que ce soit Cody Rhodes dans cette situation-là. Puis deuxièmement, ça, c'est super logique que beaucoup de gens sont derrière Cody Rhodes dans cette situation-là, avec cette histoire-là. On veut le voir finir son histoire. Combien de fois qu'on a entendu « finish your story, I'm going to finish my story », mais là, on s'enligne vers ça, puis tout le kit. Fait que là, jusqu'à date, tout est beau. Le SmackDown qui suit ce WrestleMania-là, Cody Rhodes est supposé faire son choix, qui semble être très évident. Seth Rollins, quelques jours avant Monday Night Raw, a essayé de le convaincre d'affronter lui, comme quoi de dire que sa ceinture de championnat, c'était la meilleure, c'était la ceinture pour les lutteurs qui travaillent fort. Roman Reigns, c'était un paresseux, blablabla. Bla, bla. Cody Rhodes arrive à SmackDown, fait son choix, commence à dire qu'il veut pas juste la ceinture mondiale de Roman Reigns, il veut finir son histoire, mais il veut aussi que la bloodline soit complètement, guillemets, anéantie. En anglais, il dit « I want to make sure we take down the bloodline once and for all, d'une fois pour toutes. » Et là, il dit « Je vais tout faire ça, mais pas à WrestleMania. » Puis là, le monde est comme « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Puis il dit « Mais je connais quelqu'un qui m'a conseillé, qui te connaît très bien. » Puis la musique de Rock arrive. Le monde y capote, bien évidemment. The Rock et Cody Rhodes, il y a une poignée de main. Petite caresse, toute la quête. Ils se disent quelque chose dans l'oreille. The Rock dit quelque chose à Cody Rhodes dans son oreille. Cody Rhodes s'en va. Et là, on a le fameux face-off entre The Rock et Roman Reigns. Puis en dessous, ça nous dit qu'il va y avoir un événement de presse pour à Las Vegas le jeudi d'ensuite pour officialiser le tout. Là, moi, je capote. Moi, je suis très content parce que moi, comme je vous ai dit, je suis un fan qui va de la Attitude Era. The Rock, c'est mon lutteur préféré ever, tout simplement. Ça fait des années que je veux voir ce match-là entre The Rock et Roman Reigns. Mais, malgré tout, moi, ce qui prédomine dans le monde de la wrestling, dans le monde de la lutte, pourquoi j'aime autant ça, c'est l'histoire qu'on nous présente, c'est l'histoire qu'on nous donne. Donc, je veux aussi voir Cody Rhodes finir son histoire. Puis honnêtement, autant que j'adore Roman Reigns, il est temps qu'il perde sa ceinture. Puis je sais que la meilleure façon qu'il perde sa ceinture, c'est pas contre The Rock. Ça m'aurait étonné ben gros qu'il droppe la ceinture à The Rock à WrestleMania, mais contre Cody Rhodes, par exemple, il y a beaucoup plus de chances. Fait que, tu sais, mais malgré tout, j'étais comme, peut-être que le rematch avec Cody Rhodes va se passer soit le en Arabie Saoudite comme fin mi-juin ou à SummerSlam au mois d'août. Puis le record de Hulk Hogan là, qui plane autour de ça, je pense que Roman Reigns, je ne me trompe pas, faut qu'il se rende au 24 septembre 2024 ou au 23 septembre 2024, dans ce coin-là. Fin septembre 2024, pour battre le record d'Hulk Hogan. Mais encore là, le record d'Hulk Hogan, c'est 3e place pour être le champion le plus long. C'est pas le premier, là. Il y a Bob Backlund puis Bruno Sammartino qui sont plus hauts que lui. Puis Bruno, là, c'est comme, il y a un autre 4 ans à faire pour se rendre à lui. Fait que tu sais, oui, battre Hulk Hogan, c'est quelque chose. Le record d'Hulk Hogan, c'est quelque chose. Mais en place d'être quatrième, il serait troisième. Fait que c'est-tu si important que ça? Honnêtement, c'est un autre débat pour un autre show. Puis d'ailleurs, ça pourrait être un débat intéressant qu'on pourrait parler après WrestleMania, tout dépendant du résultat de ce match-là. En tout cas, on va en reparler où est-ce qu'on saigne avec ça. Fait que bref, on arrive entre SmackDown et la conférence de presse à Vegas qui était 6 jours plus tard. Le lendemain de SmackDown, sur les médias sociaux, le monde y capote, mais pas de la bonne façon. Comme envers The Rock, je parle. Le monde, ils veulent rien savoir. Le monde, ils ont trouvé que c'était mal fait, comment qu'on a fait ça. Ça a vraiment de l'air comme si The Rock, qui là, aujourd'hui, d'ailleurs, petite parenthèse, The Rock fait maintenant partie de la... C'est un des boss chez TKO, pas de WWE, chez TKO. Il est sur la table des directeurs, puis tout ça. Il a sa place à cette table-là maintenant. C'est un des big boss à TKO, donc c'est un des big boss de la WWE, carrément. Fait que là, il y a du monde qui se disait, bon, mais il a utilisé son pouvoir, il s'est faufilé dans le main event, les gens sont pas d'accord, on veut voir Cody Rhodes finir son histoire. C'est devenu comme We Want Cody a trendé sur Twitter, sur X, sur les médias sociaux, partout, pendant des jours et des jours. C'était complètement... J'avais jamais vu ça, honnêtement. C'était vraiment fascinant. La dernière fois que j'ai vu quelque chose du genre, c'était la situation de Daniel Bryan. Puis même là, c'était pas la même chose, mais c'était quand même très puissant. Puis ça a eu un impact. Dans ce temps-là, ils ont changé l'histoire de Daniel Bryan pour qu'il gagne la ceinture à WrestleMania 30. Fait que là, je me disais, on va-tu encore écouter ça? Parce que, tu sais, il y a deux aspects à ça, là. Comme c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est bien beau. C'est important d'écouter les fans, parce que c'est eux, ultimement, qui donnent l'argent, si on veut, pour les billets, puis écouter le show, puis tout ça. Mais en même temps, si tu donnes raison... mettons, tu ferais une décision, les fans chialent, puis tu changes tout le temps ta décision basée là-dessus, bien, tu crées des précédents. Puis ce que ça fait, c'est que les gens vont constamment chialer quand ils ne sont pas contents en se disant « Hey, on va avoir ce qu'on veut pareil, donc soyons loud, allons sur les médias sociaux, faisons sûr de chialer, faisons sûr qu'on trend, puis on va avoir ce qu'on veut. » Fait qu'il y a ce danger-là là-dedans. Cette situation-là ici est particulière parce que beaucoup de gens voulaient voir Cody Rhodes finir son histoire, puis c'était pas clair. On savait rien. Ils n'ont rien dit, là. Ils n'ont pas dit que Roman Reigns prenait contre The Rock. La seule affaire qu'on a su, c'est que Cody Rhodes a dit « Je finis pas mon histoire à WrestleMania cette année. » Puis là, le monde était confus, ben raide. Puis je les comprends d'être confus, je l'étais moi aussi. Fait que là, on arrive à la conférence de presse à Vegas le jeudi d'ensuite. Et là, Roman Reigns, il sort, blablabla, puis comme... Là, Cody Rhodes, il se décide pas, il est pas capable de décider. Donc, moi, je vais décider qui que moi j'affronte à WrestleMania. Et moi, je décide d'affronter The Rock. Puis là, The Rock, il sort avec sa musique. Le monde, ça cheer, mais ça boue aussi. C'est comme moitié-moitié. Puis là, The Rock, tu vois qu'il est comme, OK, comme ça a un impact, pas juste ses médias sociaux, là. Ça a un impact sur la crowd, là. C'est à ce point-là, là. Comme on entendait des gens bouer The Rock, là. C'est à ce point-là. Là. Puis là, tu le vois, là. Puis là, je suis comme, oh boy, est-ce que The Rock va tourner heel? Comme qu'il a fait en 2003, d'ailleurs, qu'il aime. Pour moi, même si ça a duré 3 mois, là, Hollywood Rock, c'est le meilleur rock ever. Il n'y a personne qui va me convaincre du contraire. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir Hollywood Rock sur YouTube. Il y a un paquet de vidéos qui highlight toutes les histoires, les matchs, mais aussi les promos, puis tout ça, c'est du bonbon. Il était incroyable dans ce temps-là. On parle d'une vingtaine d'années passées, là, mais il était incroyable dans ce temps-là. Puis je trouvais qu'il avait il agissait un petit peu similaire. Quand il est rentré sur stage à Vegas, il était comme plus slow, il était pas comme... Puis il commence à parler, puis comme... tu vois qu'il s'enligne comme un peu comme ill-ish, là, tu sais. En tout cas, fait que là, finalement, il dit de Roman Reigns, on va. Plus gros main event of all time, WrestleMania, let's go. On est excité, puis il montre le gros arbre familial, le family tree, de la Bloodline, qui était très impressionnant de voir tous les noms qui sont autour de la Bloodline dans la vraie vie, parce que c'est vraiment une vraie chose, là, c'est vraiment de la famille, tout ce monde-là. C'est impressionnant de voir ça. Puis là, Cody Rhodes y arrive, puis il dit, c'est de la bullshit, blablabla. Je reviens sur ma décision, je choisis Roman Reigns à WrestleMania, c'est Roman Reigns contre Cody Rhodes. Puis il s'en va, entre guillemets, insulter la famille de Rock puis de Roman Reigns. Et là, ben, c'est pas compliqué, The Rock s'approche et il dit, ah ben là, t'as insulté ma famille, on a un problème, puis il slap solide Cody Rhodes en pleine face. Ça crée tout un moment, tout le monde en parlant en ligne, puis tout ça. Seth Rollins qui est venu à la défense de Cody Rhodes, puis on a eu comme une espèce de genre de face-off entre Roman Reigns, The Rock et Seth Rollins et Cody Rhodes. Puis là, ben, ça finit comme ça. Fait que bref, là on arrive au Super Bowl, il y a un genre de teaser trailer de 30 secondes pour WrestleMania, puis c'est The Rock et Roman Reigns face à face avec Seth Rollins puis Cody Rhodes. Clairement, ça nous dit où est-ce qu'on s'enligne avec tout ça. Et là, ben, la semaine après ça, The Rock est à SmackDown et confirme qu'il est full heel. C'est pas tout à fait Hollywood Rock, par exemple. C'est différent un peu, mais c'est similaire. En tout cas, clairement, il utilise cet aspect-là, mais aussi l'aspect que c'est lui le big boss puis qu'il peut changer tout en un claquement des doigts. Puis là, ben, The Rock est officiellement avec la Bloodline. On l'a vu d'ailleurs la semaine passée. Roman Reigns, qui dans un moment qui était assez particulier. The Rock qui fait sa promo habituelle. Roman Reigns est dans le ring avec le reste de la Bloodline. Tu vois qu'il est comme... Il est annoyed, là. Il est comme, oh my God. Puis tu vois qu'il est comme inquiet, puis il est comme irrité. Puis t'es comme, aïe, qu'est-ce qui se passe? Puis là, quand Roman Reigns... quand The Rock... lance le. Parce que là, entre-temps, Elimination Chamber, ce qui est arrivé, que j'ai pas parlé tantôt, d'ailleurs, j'ai juste parlé des matchs, je fais une petite parenthèse, je l'ai gardé pour ici. Mais à Elimination Chamber, il y avait le Waller Effect avec. Avec Seth Rollins et Cody Rhodes. Puis ce qui est arrivé avec ça, c'est que Cody Rhodes a challengé The Rock dans un match 1 contre 1. Il n'a pas dit où, il n'a pas dit quand. Il a juste dit un match 1 contre 1. Bref, The Rock refuse son challenge et une contre-offre pour lui. Puis la contre-offre, c'est The Rock et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth Rollins, main event de soirée 1, donc le samedi de WrestleMania. Et la catch là-dedans, c'est que si Cody Rhodes et Seth Rollins gagnent, la Bloodline est banné, ne peut pas participer au match. Ça va être un match 1 contre 1 entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Si The Rock et Roman Reigns, par exemple, gagnent, alors le main event du lendemain entre Cody Rhodes et Roman Reigns va être Bloodline Rules. Alors, tout est permis, toute la Bloodline peut interférer. Comme que Rock a dit, Jimmy peut être l'arbitre. Paul Heyman peut servir de qu'est-ce qu'il veut. Puis même Solo pourrait chanter l'hymne national s'il veut. Puis là, ça a fait en sorte que Solo, il y a un gros solo, un solo chant. Puis je pense que la première fois de ma vie, j'entendais un solo dans les estrades. C'était assez incroyable. Mais écoute, The Rock, c'est ça qu'il fait. Il est bon pour ça, tu sais. Fait que bref, ça serait Bloodline Rules, tout est permis. Puis The Rock a laissé très bien sous-entendre qui était pour être présent, puis qui était pour être là, puis qui était pour aider son cousin Roman Reigns à garder sa ceinture. Puis une autre affaire aussi, c'est que ça fait 2 SmackDown que The Rock et Roman Reigns sont dans le même ring avec la Bloodline, et à la toute fin, quand on lève notre fameux doigt dans les airs pour dire que la Bloodline, puis tout ça, ben dans le fond, c'est le doigt avec le pouce fermé. Puis The Rock, la première fois, il a mis son pouce ouvert, ça fait comme un L, tu sais, comme loser. T'sais. Puis là, le monde était comme, ben, soit que c'était une erreur, puis il n'a même pas pensé, ou c'était on purpose. C'est qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Puis là, la deuxième semaine, quand il l'a refait, il a levé son doigt, puis là, il hésitait, puis whoop, là, il a mis son pouce en L, et ensuite, il a refermé le pouce, puis la caméra met l'emphase là-dessus, là. Puis c'est ça qui est fou, là. Tous ces petits détails-là, c'est incroyable. Comme je disais tantôt, Roman Reigns, quand The Rock vient pour faire son « If you smell », puis là, Roman Reigns, il l'arrête, il met sa main sur son bras. Puis là, tu vois The Rock qui se lève tranquillement, puis il le regarde dans les yeux, la tension entre les deux. Puis juste le silence, la crowd est comme « Holy shit, holy shit ». La tension, juste avec un regard, ça démontre à quel point que malgré tout ça, là, les gens veulent voir The Rock contre Roman Reigns. C'est clair, ça n'a jamais été ça le problème. Le problème, c'était tout simplement... l'exécution de la situation, comment qu'on a fait ça, comment qu'on est arrivé à dire « Ouais, ben Cody Rhodes ne sera plus dans ce match-là, ça va être The Rock au lieu. » Puis il a fallu qu'on fasse un pivot puis tout le kit. Fait que bref, Roman Reigns regarde The Rock puis il dit « J'ai besoin de quelque chose, comme je ferais toute ma famille, mais j'ai besoin de t'entendre dire une chose. » Puis là, moi, je savais exactement ce qui s'en va. Puis là, Roman Reigns la regarde puis il dit « Acknowledge me, tu sais. » Puis là, la crowd, elle capote. Là. The Rock, il enlève ses lunettes, prend son temps, prend le micro, puis il dit « Roman », on va dire en anglais, parce que c'est ce qu'il a dit, mais « Roman Reigns, my family ». Puis là, il dit « I acknowledge you as my tribal chief ». Tu sais? Puis là, Roman Reigns, là, tu vois, il y a comme un poids qui se libère de ses épaules. Roman Reigns, il faut que je fasse une parenthèse, il est tellement bon. Ses expressions faciales, son body language, comme... C'est comme l'inverse de The Rock. The Rock est bon avec ça aussi, mais The Rock, c'est ses paroles, son charisme. Roman Reigns, c'est plus silencieux, mais quand il parle, il est très bon aussi. Mais c'est son body language, ses expressions faciales qui sont comme... Il est numéro un là-dedans, Roman Reigns. Il est vraiment incroyable. Fait que bref, Roman Reigns, il est content. La face de Paul Heyman veut tout dire. Il est comme, oh my God, il capote bien raide. Fait que là... poignée de main, caresse entre The Rock et Roman Reigns. Puis là, il a fait l'affaire du pouce que je lui ai dit tantôt. Bref, on semble être sur la même longueur d'onde dans la Bloodline. La Bloodline semble être plus forte que jamais. The Rock, c'est un full heel en ce moment. Puis on s'enligne vers WrestleMania. Un tag team match comme main event numéro 1 qui va avoir un impact significatif sur le main event de la soirée 2. Qui est Cody Rhodes versus Roman Reigns. Mais là, tout ça, c'est l'histoire. On est parti du 1er janvier, puis on est rendu là aujourd'hui, en tout ce qui se passe entre The Rock puis tout le kit. Puis là, on parlait de Seth Rollins un peu. Parce que là, Seth Rollins, il a un rôle à jouer là-dedans, parce qu'il lâche pas de dire à Cody Rhodes, semaine après semaine, je vais être de ton côté, je vais te supporter. Puis on sait que Cody Rhodes et Seth Rollins, dans la vraie vie, c'est pas des chums, là, tu sais. Puis ils ont une grosse historique aussi dans le ring. Ils ont eu quand même trois gros matchs que Seth Rollins, il a perdu les trois matchs contre Cody Rhodes. D'ailleurs, Seth Rollins n'a jamais gagné contre Cody Rhodes. Si on inclut tous les matchs pay-per-view puis les matchs dans les house shows qui ne sont pas télévisés, ben Seth Rollins, il est 0 victoire, 22 défaites contre Cody Rhodes. Fait que c'est énorme, là, tu sais. Mais nous, on en a juste vu trois. T'sais, on a vu trois pay-per-view, trois PLE des matchs que Seth Rollins a perdu. Mais là, dans ce temps-là, Seth Rollins, il était le heel, là, il est babyface, il joue... Fait que là, on... Puis pourquoi que Seth Rollins s'en mêle, ça va au-delà d'aider Cody Rhodes? C'est parce que lui, là, il est comme... Il faut absolument enlever la ceinture. Il faut absolument que Roman Reigns perde sa belt. Il dit, tout part de là. S'il perd sa belt, il perd sa crédibilité, puis la bloodline s'effondre. Carrément. C'est ce que Seth Rollins dit. Fait que lui, dans sa tête, là, il est comme... Je suis prêt à tout mettre mon focus là-dessus. Puis même, quitte à mettre un peu de côté son propre title match qu'il a contre Drew McIntyre. Là. Parce que là, en acceptant de se prendre contre Roman Reigns puis The Rock, là, ben Seth Rollins doit se battre deux fois. Là. Il doit se battre le samedi dans ce tag team-là. Puis après ça, il faut qu'il défende son titre le dimanche. D'ailleurs, ça a été confirmé que Seth Rollins et Drew McIntyre puis Roman Reigns puis Cody Rhodes vont être les deux co-main event du dimanche soir de la soirée 2 de WrestleMania. Alors, pas dit qu'ils vont être un après l'autre, là, mais ça va être deux co-main event. C'est ce qu'on a dit à Raw cette semaine. Donc ça, c'est confirmé. Puis c'est un peu ça que Drew McIntyre lâche pas de dire. Pis c'est ça que j'aime. C'est que moi, je pensais que tout de suite, ça pourrait être une distraction, si on veut, de son match contre Drew McIntyre. Mais on intègre tout ça dans l'histoire, puis c'est fascinant, puis pour moi, c'est brillant. Puis Drew McIntyre est comme « Hey, dude! » Il est comme mets ça de côté, focus sur notre match. Là. Si tu fais ça, là, ils vont interférer dans notre match, puis ils vont te faire perdre. Puis moi, ben, tu sais, je vais gagner, mais c'est pas de même que je veux gagner. Tu sais, ils jouent vraiment comme... c'est spécial son personnage. Mais le pire, c'est qu'il a raison. Il a vraiment raison. Il est comme, laisse ça de côté, laisse faire Cody Rhodes, laisse faire la Bloodline, focus sur notre match. Puis Seth Rollins, il n'est pas capable de faire ça parce que lui, dans sa tête, il semble carrément prêt à sacrifier son propre titre pour s'assurer que Roman Reigns perde le sien et que la Bloodline s'effondre une fois pour toutes. C'est l'histoire qu'on semble vouloir nous dire, en tout cas, pourquoi que Seth Rollins est mêlé à tout ça. Fait que c'est quand même intéressant, mais je vais vous avouer, par exemple, que Seth Rollins, à côté des trois autres, là, il a de l'air un peu plus petit. Là, t'sais. The Rock, c'est The Rock, Roman Reigns. Autant que Roman Reigns, pendant une couple de semaines, il avait de l'air très petit, entre guillemets, à côté de The Rock, parce que The Rock prenait toute la place avec, non seulement il est plus gros physiquement, mais avec son aura, puis son charisme, tout le kit. Là, le fait qu'on a fait le segment que The Rock a acknowledgé Roman Reigns, là, ça change tout. Là. T'sais, là, on ramène Roman Reigns au niveau, faire sûr que non, on regarde, malgré que The Rock est là, c'est lui le Tribal Chief. Là. On a éclairci ça une fois pour toutes. Là, t'sais. Fait que j'ai adoré cet aspect-là pour ça. Fait que là, tout ça pour dire que Seth Rollins, il est mêlé à tout ça, puis il a l'air d'être un peu le fourth wheel là-dedans. Il est comme un peu, il est pas mis de côté, mais il file pas au même niveau que les trois autres là-dedans. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire d'ici ce temps-là pour voir comment que ça va paraître, mais ça reste que c'est énorme pour lui parce que finalement, Seth Rollins va être dans un main event à WrestleMania, ce qui n'a jamais été jusqu'à date. Donc, il va faire partie du main event pour le tag team, puis il va être un co-main event pour son championnat, match de championnat le lendemain. Donc, c'est énorme pour lui, fait que tant mieux. On va voir ce que ça va donner, mais bref, c'est ça. Puis même à ça, toute cette histoire-là comme, est tellement complexe. C'est ça que j'aime. T'sais. Puis The Rock, là, quand on parlait tantôt de pivot, là, The Rock n'était pas supposé être un méchant. Là. Il s'est ajusté carrément en cause de... Oui, en cause des fans, en cause du backlash, puis tout le kit, mais il s'est ajusté, puis il a dit, vous savez quoi? On va vous donner la meilleure histoire possible. Puis ça, là, il a dit, c'est juste le premier chapitre. Là. Fait qu'on... Ça finit... Puis ça fait un an qu'il dit. Il a dit au show de Pat McAfee en octobre dernier. Il dit pourquoi que The Rock et Roman Reigns, ça ne s'est pas produit l'année passée à WrestleMania 39, c'est qu'on voulait s'assurer d'avoir la meilleure histoire possible entre les mains, mais aussi qu'à WrestleMania, ce n'est pas la fin de quelque chose, mais plutôt le début de quelque chose d'autre. Puis là, je commence à voir ce qu'il veut dire avec ça. Puis on va en reparler un peu tantôt. Bref, cette histoire-là est fascinante. Il y a tellement de détails, il y a tellement d'aspects. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Puis là, ben Ce qui va avoir un impact majeur, parce que là, une autre chose qui est arrivée, c'est que The Rock a fait une grosse promo de 21 minutes sur Instagram qui, en gros, a expliqué tout ce qui s'est passé. Parce que là, l'aspect manquant dans toute cette histoire-là, c'est pourquoi, qu'est-ce qui a été dit entre The Rock et Cody Rhodes, puis pourquoi Cody Rhodes a laissé sa place à The Rock, puis pourquoi il a changé d'idée après. T'sais, oui, nous, on sait pourquoi, là. Mais dans l'histoire, dans le kayfabe qu'on appelle la lutte, dans le monde de la lutte, dans cette histoire-là, il faut quand même un élément de l'histoire qui fait que tout ça fait du sens. Puis il nous manquait ça. Puis cette promo-là de The Rock de 21 minutes explique tout ça. Il explique qu'il est allé voir Cody Rhodes, qui a dit, écoute, je sais que tu as gagné Royal Rumble, tu mérites d'affronter Roman Reigns, qui tu veux, c'est correct. Mais je suis là, je suis de retour, puis ce qui est mieux pour la business... C'est The Rock contre Roman Reigns. Ton histoire, tu peux la finir plus tard. Es-tu d'accord, oui ou non? Cody Rhodes aurait dit à The Rock, écoute, c'est poche, mais oui, je comprends. Je suis un gars d'équipe. Je suis un gars de business. Oui, c'est poche, mais je comprends ce que tu dis. T'as raison. Je vais me tasser pour l'instant. Je vais finir mon histoire plus tard. Là, The Rock était content. Puis là, on a vu ce qui est arrivé quand The Rock est revenu à SmackDown, tout le kit. Puis là, ben, The Rock, comme il joue le heel, évidemment, il joue le méchant. Fait qu'il revire ça de bord. Il dit comme... Puis là, Cody Rhodes, en place de me supporter, quand t'es parti, t'avais de l'air piteux, t'avais pas l'air à supporter, puis tout le kit. Puis là, tu reviens, tu changes d'idée, t'aurais pu me le dire, tu me l'as jamais dit. En place de ça, non seulement tu me le dis pas, mais t'insultes ma famille, là, on a un problème. Fait que là, tout fait du sens maintenant avec cette explication-là. Fait que, il faut que j'aie mon chapeau à The Rock, puis Brian Gerwitz, c'est comme son scripteur personnel là, qui le suit partout. Puis là, lui, il est impliqué dans cette histoire-là avec la Bloodline puis tout le kit. Puis là, on est supposément seulement dans le premier chapitre de tout ça. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Je ne sais pas. Mais clairement, le premier chapitre va se finir à WrestleMania et le chapitre numéro 2 va commencer après WrestleMania. On verra ça va être quoi. Mais tout ça pour dire, on arrive au main event. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le tag team, le premier soir, va avoir un impact énorme sur la deuxième soirée. Où est-ce qu'on s'enligne avec ça? Ben pour moi, c'est simple. Ma prédiction, The Rock et Roman Reigns vont gagner ce match-là. Pour moi, c'est ce qui fait du sens. Pourquoi? Parce que je ne vois pas un one-on-one match le lendemain. Puis honnêtement, si je me fie à ce que je vois sur les médias sociaux, sur différents podcasts puis tout, la majorité des gens sont d'accord avec moi. C'est pas ça que les gens y veulent. Fait que là, The Rock et Roman Reigns gagnent le premier soir. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je prédis que c'est The Rock qui va piner Cody Rhodes. On verra. Mais je pense que The Rock doit être celui qui gagne le match pour son équipe. Pourquoi? On va en reparler dans pas long. Mais tant qu'à moi, là, on verra. Là. C'est très possible que Cody Rhodes et Seth Rollins gagnent aussi. Là. C'est ça qui est le fun. C'est que ça peut d'un bord comme de l'autre. Mais moi, je suis pas mal certain. Ma prédiction, The Rock et Roman Reigns gagnent ce main event-là. C'est The Rock qui va gagner le match pour son équipe. Ça nous amène à la soirée numéro 2. Si, comme je l'ai dit, ma prédiction s'avère vrai, le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns va être Bloodline Rules. Donc, Bloodline Rules veut dire tout est permis, tout le monde peut intervenir, puis tout le kit. Puis dans le monde de la lutte, on appelle ça un match overbooked. Ça veut dire que il va y avoir plein de monde qui va interférer. Puis vous pouvez être certain que si la Bloodline interfère, ça ne sera pas les seuls. Il y a du monde qui va venir supporter Cody Rhodes. Si c'est Bloodline Rules, le match, là, préparez-vous à un paquet d'interférences. C'est sûr et certain. Je parlais avec mon chum Joe. Je te salue, mon cher Joe. D'ailleurs, j'ai ta question qui s'en vient très bientôt. La question pour le podcast un peu plus tard. Mais je parlais de ça avec lui, puis j'étais comme... C'est quasiment comme un... On va quasiment avoir un film d'Avengers, là. C'est dans le ring. Tellement qu'il va y avoir du monde qui va intervenir. Les bons contre les méchants, puis toute la quête. Puis, tu sais, ça a l'air drôle à dire comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'enligne vers quelque chose du genre. Puis j'écoute bien des podcasts de gens qui sont bien plus calés que moi en lutte, puis tout ça, puis qui en suivent depuis tellement longtemps, c'est fou raide. Puis eux autres pensent vraiment la même chose. C'est WrestleMania 40, ça va être un gros main event, puis on veut vraiment aller all out avec cet événement-là. Puis pourquoi que je pense que ce ne sera pas un match 1 contre 1? Ben on revient v'là un an. Là. La finale de Cody Rhodes contre Roman Reigns, Solo Sikoa, on est à toute fin. Là. Cody Rhodes est sur le point de gagner, il fait deux crossroads, vient pour en faire un troisième. Solo Sikoa arrive en arrière, fait le spike dans la gorge de Cody Rhodes. Après ça, Roman Reigns fait un spear. 1, 2, 3, c'est fini. Le monde n'en revenait pas. Quelques semaines passées à Raw, Cody Rhodes se prend contre Drew McIntyre. Hein? Et la même fin, là, Cody Rhodes est sur le point de gagner. Et Solo Sikoa arrive, fait le spike. Après ça, Drew McIntyre fait son Claymore kick, son finisher. 1, 2, 3, c'est fini. Pour ceux qui ne savent pas, là, Cody Rhodes, il a perdu deux fois. Il était piné, je devrais dire deux fois. Il a perdu trois fois. Mais il a piné deux fois. Il a été piné deux fois, excuse. En deux ans. Par Roman Reigns, l'année passée à WrestleMania. Et par Drew McIntyre, quelques semaines passées à Raw. Puis les deux fois, c'était en cause de Solo Sikoa, de qu'est-ce qu'il a fait, de son interférence. Pensez-vous vraiment qu'on va se rendre à WrestleMania puis qu'on va passer par-dessus la chance de recréer cet événement-là? Parce que les gens, il y a encore un PTSD de ça, littéralement, l'année passée, de cette finale-là. Puis en plus, on nous le remet en pleine face avec la fin du match contre Drew McIntyre quelques semaines passées à peine. On veut nous le rappeler, là, comme « Hey, oubliez pas, c'est le même, ça finit. » C'est sûr et certain qu'on va refaire ce moment-là dans le main event de WrestleMania 40. La différence, par exemple, ce que je pense qu'il va arriver, ça arrive, c'est que Cody Rhodes va kicker out juste avant le 3. Tu veux créer des moments. Puis si tu en veux un moment, là, c'est exactement ça. Imaginez, Cody Rhodes est sur le point de gagner. Solo Sikoa, il arrive, bang, fait son spike, un spear. Le monde sont comme, pas encore, tu me niaises, voyons donc. Puis là, il kick out juste avant le 3. Le monde vont capoter ben raide. Ça va créer un moment incroyable dans ce match-là. Tu peux pas faire ça. Juste en cause de ça, je suis convaincu qu'on s'enligne vers un Bloodline Rules match pour le main event et non pas un contre un. En temps normal, dans la majorité des cas, je suis pro un contre un. Je préfère qu'un match de championnat soit un contre un, puis je préfère que ça ait une finition clean, qu'on appelle dans le jargon de la lutte, puis que ça soit vraiment un bon match, âprement disputé, puis ça finisse 1-2-3, un contre un, pas d'interférence. En temps normal, je préfère ça, c'est ça que c'est. Mais ça, c'est une des instances que je pense que ça ne marche pas, que ça n'a pas sa place. Pourquoi? Comment je pourrais dire ça? Pour ceux qui écoutent la lutte depuis longtemps, puis même si vous n'écoutez pas la lutte depuis longtemps, vous ne l'écoutez pas vraiment tout court, allez sur YouTube, écrivez dans la search bar, là, écrivez Backlash 2000 Rock versus Triple H. Tant qu'à moi, cette fin de match-là, encore à ce jour pour moi, c'est une, sinon la meilleure fin de match que j'ai vue de ma vie au niveau de la lutte. C'était le mois après WrestleMania 2000, donc WrestleMania 16, où ce que The Rock aurait dû gagner la belt, et pour une raison qu'on ignore, c'est un Fatal 4-Way, c'est The Rock contre Triple H, contre Mick Foley, contre Big Show. Puis pour une raison qu'on ignore encore à ce jour, ils ont décidé de... C'est Triple H qui était champion, qui était le gros méchant dans ce temps-là. Puis il y avait toute l'autorité en arrière de lui. Il y avait Vince McMahon, il y avait Shane McMahon. Puis dans ce temps-là, là, t'avais les... Dans chaque... T'avais, c'était un Fatal 4-Way, là. Puis dans chaque corner, là, t'avais un McMahon. Vince, il était... Stephanie était avec Triple H. Vince, il était avec The Rock. Shane, il était avec Big Show. Puis Linda McMahon était avec Mick Foley, me semble. C'était la grosse affaire, là. Puis finalement, Vince se retourne contre The Rock. Triple H gagne. Toutes les McMahon, sauf Linda, sont toutes ensemble. C'est une grosse ruse, c'est une grosse crosse, let's go. En tout cas, The Rock perd à WrestleMania. Le monde, il capotait. C'était, le monde, il, pas de la bonne façon. Là, un mois plus tard, le rematch entre The Rock et Triple H. Toute l'autorité est contre lui. Tout le monde interfère. Vince McMahon, Shane McMahon. Même les refs, c'est comme Pat Patterson, puis Gerald Briscoe. C'est tout du monde l'autorité. Là. Tout le monde est contre The Rock, là. Comme il n'y a aucune chance, là, c'est sûr. Il est sur le point de perdre. Puis là, tu entends la glace, la vitre qui brise. Stone Cold, qui était parti depuis des mois, revient. Le monde, ils ont capoté ben raide. À ce jour, je pense que c'est la plus grosse ovation que j'ai entendue de ma vie au niveau de la lutte. Stone Cold, il arrive, frappe tout le monde avec une chaise. Et après ça, The Rock vient pour manger un coup de chaise à Triple H. The Rock fait un People's Elbow à Triple H. Et là, Linda McMahon arrive avec un autre ref, Earl Hebner, le célèbre Earl Hebner. Et là, finalement, elle dit Earl Hebner va compter le 1-2-3. Et là, The Rock, 1-2-3, The Rock devient champion. Et la crowd en éruption totale, sérieux, c'était incroyable. Tu ne peux pas créer de moment comme ça avec du 1 contre 1. Comme dans tous les matchs que j'ai vus, là, c'est celui-là qui m'a... J'en parle, j'ai des frissons. Je l'ai écouté encore ce matin. Là, comme, j'en parlais avec Joe, justement. Puis c'est très frais dans ma mémoire par rapport à ça. Puis comme c'est juste un moment incroyable. Puis t'en parles à des fans de wrestling, la Attitude Era, puis tout ça. Puis ils vont tous te dire que ce moment-là était un, sinon leur plus gros moment ever. Ben, tu veux recréer ce genre d'événement-là, ce genre de moment-là. Cody Rhodes fait 2 ans qu'il se bat pour son histoire, en guillemets. Ça fait 1 an, je devrais dire. Depuis WrestleMania l'année passée, qui est là pour ça. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut finir. C'est ça qu'il consomme en dedans, qui est comme, je veux finir mon histoire. Il veut gagner la ceinture que son père n'a jamais pu gagner. Il veut faire ça pour son père, il veut faire ça pour lui. Tout le monde est en arrière de lui. Cody Rhodes, c'est le plus over babyface que j'ai vu depuis longtemps. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, tout le monde est derrière lui. Le gars, il est populaire comme jamais. C'est son temps de gagner la belt. C'est là. Fait que tu veux faire ça, tu lui donnes un moment incroyable, oui, qu'il a de l'air fort, mais ça va au-delà de son histoire. Parce que ça fait presque 4 ans que la Bloodline est là. Ça fait presque 4 ans que Roman Reigns est champion. Puis ça fait presque 4 ans que Roman Reigns, à part quelques exceptions près, gagne toujours à cause de la Bloodline. Il semble invincible parce que la Bloodline est toujours ensemble. Malgré que Jay est parti, puis les petites les changements qu'il y a eu, il y a encore Jimmy là, il y a encore Solo, là, il y a encore Paul Heyman. Là, il y a The Rock qui est avec lui. Il semble plus fort que jamais. Les gens, au-delà de voir Cody Rhodes finir son histoire, les gens veulent voir la Bloodline s'effondrer, tout simplement. C'est honnêtement, là, comme moi, j'ai des chums, là, comme ils s'en sacrent qui bat Roman Reigns. Ils veulent juste voir Roman Reigns perdre. Mais là, une fois que Roman Reigns perd, s'il perd à WrestleMania, qu'est-ce qui arrive après? Ben, c'est une chose de créer ce moment-là, mais qu'est-ce qui va se passer après? Pis c'est là que The Rock arrive. C'est toute l'histoire que The Rock est en train de bâtir. Qu'est-ce qu'il veut dire par « on commence de quoi WrestleMania » C'est là tant qu'à moi. Parce que si Cody Rhodes gagne la belt à WrestleMania, si on revient à ma prédiction que je dis que The Rock, la veille, c'est lui qui a donné la victoire à son équipe. Puis malgré ça, Roman Reigns perd le lendemain. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de la friction entre The Rock et Roman Reigns. Puis le début de l'histoire de The Rock versus Roman Reigns commence là. Donc, on crée quelque chose d'incroyable à WrestleMania 40, mais c'est le début. On finit quelque chose, l'histoire de Cody Rhodes, bon, c'est le début de quelque chose. C'est le début de la fin de la Bloodline. Fait que pour moi, tout est là. Les cartes sont sur la table. Ma prédiction pour la soirée 2, Cody Rhodes bat Roman Reigns et on s'enligne vers une autre grosse histoire pour la Bloodline. Mais aussi, ce qu'on fait, on exclut Cody Rhodes de là une fois pour toutes. Imaginez-vous, là, si Cody Rhodes perd ce match-là, puis que pendant une autre année, là, on entend parler que Cody Rhodes, il faut qu'il finisse son histoire puis toute l'équipe. Ça va encore encombrer l'histoire de The Rock puis Roman Reigns. Carrément. Il faut que Cody Rhodes batte Roman Reigns pour les raisons que je viens de vous dire. Il est temps. Le record d'Hulk Hogan n'est pas si important que le monde pense. On n'a pas besoin de le battre. Pour moi, c'est le temps. Les gens ont besoin de changement, ont besoin de ça. Puis tu veux aussi faire sûr que l'histoire de la Bloodline reste importante, mais reste aussi rafraîchissante, que ça reste comme quelque chose que les gens vont vouloir écouter. Puis je pense que si tu enlèves la ceinture à Roman Reigns, puis là tu focuses vraiment sur le titre de Head of the Table, qui est au top de la Bloodline, puis est-ce que The Rock va être le heel encore, ou est-ce qu'il va redevenir babyface, est-ce que Roman Reigns va être heel ou babyface, t'as tellement d'enjeux là-dedans, qui va joindre à Rock, qui va joindre à Roman Reigns, va-tu avoir des nouveaux membres dans la Bloodline, il y a plein de choses que tu peux faire sur 6 mois, sur 1 an, qui pourraient amener au ultime match entre The Rock et Roman Reigns à WrestleMania 41. Moi, c'est ma prédiction. Le main event de WrestleMania 41, même s'il n'y a pas la ceinture, ça va être le main event pareil, tant qu'à moi. En tout cas, pour un des deux soirs, c'est sûr. Ça va être The Rock contre Roman Reigns. La question, qui va avoir le rôle du méchant et du bon? Ça reste encore à déterminer. Bref, on a tellement de choses encore à se rendre. On a encore 4 semaines de contenu d'ici ce temps-là. Beaucoup de choses peuvent se passer à SmackDown. D'ailleurs, moi j'enregistre ça, on est mercredi soir. Dans 2 jours, ça va être le face-off entre Rock et Roman Reigns, puis Seth Rollins, puis Cody Rhodes. Le match va être fait officiel pour WrestleMania. On va voir cette rivalité-là grandir. Et j'ai tellement hâte de voir ce que ça s'en va. Il y a tellement de potentiel dans cette histoire-là. Bref, j'en parle, ça fait presque plus d'une demi-heure, mais il y avait tellement d'éléments, cette histoire-là. J'espère que j'ai tout couvert. Sinon, on va reparler lors des prochains épisodes. C'est pas grave, parce que le prochain épisode, on va quand même parler de WrestleMania. Puis l'épisode d'après, on va parler des résultats de WrestleMania. Donc, dans le fond, les 3 premiers épisodes de ce podcast-là, le gros focus va bel et bien être WrestleMania. C'est la saison de WrestleMania. C'est la saison la plus excitante de l'année pour un fan de la WWE. On est en plein dedans. Puis cette année, là, ça feel juste spécial pour tellement de raisons. Puis je vais garder certains des aspects du pourquoi pour le prochain épisode quand on va faire nos prédictions vraiment en détail pour chacun des matchs qui vont être annoncés d'ici ce temps-là. Fait que bref, ça va être toute une route vers WrestleMania dans les prochaines semaines. Puis là, juste avant de conclure l'épisode, avant de conclure notre premier épisode du podcast, on a une question, la question des fans. Et notre cher Joe Roy National, on te salue mon cher Joe, que vous pouvez entendre régulièrement sur le Nerdverse Podcast, mon autre podcast bien entendu, me pose la question, bien dans le fond c'est une grosse question que j'ai vraiment comme résumé en petite question. Quelle prédiction choc que je vois se produire en 2024? Puis quand que je veux dire par prédiction choc, ça peut être n'importe quoi, là, un départ, un retour, un changement de titre ou peu importe. Puis c'est une excellente question, puis il y a plusieurs choses qui m'ont venu en tête. Mais honnêtement, avec les dernières années, puis tout ce qui s'est passé avec l'histoire qu'on vient de parler de The Rock, puis tout ça, le pivot qu'ils ont fait avec la réaction des fans, tournée de Rock Hill, ma prédiction choc, c'est que d'ici la fin 2024, Roman Reigns va être un babyface et ne sera plus un heel, ne sera plus le grand méchant, le grand head of the table. Ou comment qu'on va se rendre là, on verra. Mais ma prédiction pour 2024, c'est bien ça. Roman Reigns sera un babyface d'ici la fin de l'année et je vais étirer ça un peu. WrestleMania 41, The Rock contre Roman Reigns. The Rock, dans ma prédiction, sera le heel de l'histoire et Roman Reigns sera le babyface. On s'attendait à l'inverse toujours. Ça fait 3 ans qu'on parle de Rock contre Roman Reigns. The Rock va arriver, stepper up à Roman Reigns avec le sauveur, entre guillemets, comme hey, tu penses que c'était le head of the table. Non, c'est toujours été moi, là, tu sais. Puis comme on a toujours visualisé Roman Reigns, le méchant, contre The Rock, le héros, le bon. Mais moi, ma prédiction au choc, c'est que ça va être l'inverse. On va nous switcher ça. Puis The Rock va rester un heel pour l'année. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est une autre discussion pour un autre podcast. Mais Roman Reigns sera un babyface là-dedans. Puis je peux juste m'imaginer le tournant, le point tournant de ça. Puis ça a toujours été le plan, dans le fond. De ce que je comprends, c'est qu'on veut que Roman Reigns finisse sa carrière en tant que babyface parce qu'on a essayé pendant des années, ça n'a pas marché, c'était pas le temps. On l'a tourné méchant, il est devenu le head of the table, le tribal chief. Il est populaire au bout. Le monde, ils ont beau le bouer, mais tout le monde le respecte. C'est incroyable ce qu'il a fait avec son personnage, l'évolution de son personnage, l'évolution de tout ce qu'il a fait dans le ring en général, ou ce qu'il est rendu aujourd'hui, c'est incroyable si on compare à là, 5-6 ans passés à peine. En prenant tout ça en considération, on le tourne méchant, mais il est déjà temps partiel là, à cause de sa situation de santé. On sait qu'il y a eu la leucémie à quelques reprises, il est en rémission, tout est beau, mais il est quand même, je pense, 38 ans. Là. Il est encore jeune là, pour un lutteur, mais je pense pas que c'est un lutteur qui va faire ça jusqu'à 45-50 ans comme d'autres lutteurs. Moi, je pense qu'il est dans le back-end de sa carrière, comme qu'on dit. Moi, je pense qu'il reste quelques belles années, mais sans plus. Je pense qu'il va vouloir... Il y a quand même 5 enfants, dont 2 sets de jumeaux. Il y a quand même une grosse famille qui l'attend à la maison. Fait que je pense qu'à un moment donné, il va vraiment vouloir focusser là-dessus. Il fait déjà beaucoup d'argent. Je pense pas que... je pense qu'une coupe d'année encore, puis il va être bien correct pour la vie. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on va vouloir finir ça en beauté avec lui. Une belle run de babyface pour finir sa carrière. Comme ça, quand on va le revoir une fois de temps en temps, ici et là, une fois ou deux par année, parce qu'on va quand même le voir comme... ici et là, sur un certain nombre d'années, il sera juste plus là régulièrement. Puis j'ai comme l'impression que quand on va le revoir ici et là, on va vouloir qu'il revienne comme une... que ce soit spécial, que ce soit un moment comme vraiment un événement spécial, puis tu veux l'avoir comme un babyface dans cette situation-là. T'sais. Fait que comment est-ce qu'on va faire ça, on verra. Mais moi, c'est mon scénario choc de 2024, si on peut appeler ça ainsi. Roman Reigns sera un babyface d'ici la fin de l'année. Bon, ben c'est ce qui conclut notre premier épisode du Wrestleverse Podcast. Si vous êtes encore là après une heure et demie, un énorme merci. J'apprécie énormément. J'espère que vous avez aimé ça. Et si vous voulez me poser des questions, parce que la question des fans, c'est quelque chose qu'on va garder comme concept. Alors, moi, je vais évidemment, j'ai une page Facebook déjà. Donc, vous allez pouvoir me communiquer avec moi à travers cette page Facebook-là. Éventuellement, on va créer un serveur Discord aussi pour le podcast, quand on va avoir plus de monde, puis tout ça, dans les prochaines semaines, prochains mois, peu importe, on verra quand est-ce que ça va se faire, mais ça s'en vient ça aussi, pouvoir communiquer là-dessus. Mais le segment questions des fans est là pour rester, donc posez vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre en mesure du possible sur le podcast. Puis des idées de sujets aussi, si vous voulez qu'on parle de choses en particulier, tout simplement... Entrez en contact avec moi, m'envoyez vos questions, vos idées de sujets. Ça va faire plaisir d'intégrer ça dans la mesure du possible dans les prochains épisodes. Comme je l'ai dit tantôt, épisode numéro 2 devrait paraître dans la dernière semaine de mars. On va être avec Gabriel Savage-Vienno. On va parler de, évidemment, sa continuité de carrière. On va focusser un peu sa lutte indépendante avec lui, puis où est-ce qu'il s'en va avec tout ça, puis... L'année passée, il a participé à Lutte Academy. Il va y participer à nouveau cette année. Donc, c'est quoi ses aspirations pour ça? Bref, une super belle conversation en perspective avec Gab Savage. Puis, il va rester avec nous pour l'entièreté de l'épisode, à moins qu'il y ait un changement d'ici ce temps-là. Mais le plan, pour l'instant, c'est ça. Et moi et lui, on va faire nos prédictions pour WrestleMania 40. Donc, par la dernière semaine de mars, on devrait savoir tous nos matchs. Donc, on va aller match par match. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver, mais aussi comme notre anticipation pour ces matchs-là, puis notre anticipation pour l'événement overall, comme rendu là, on va être vraiment proche, fait qu'on va parler de ça. Puis l'épisode d'ensuite, l'épisode 3, va être vraiment deuxième semaine d'avril, on va revenir sur WrestleMania, sur les résultats, puis qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les prochaines semaines, les mois qui vont suivre WrestleMania. Quelles histoires qu'on pense qu'il va se développer et où est-ce que certains des lutteurs, des personnages, puis tout ça, où est-ce qu'on pense qu'il va aller. Fait que ça va être pour l'épisode numéro 3 du podcast. Fait que sur ce, à tous et à toutes, un énorme merci encore une fois et je vous dis à plus.